Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9, nous sommes le mardi 25 novembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, déconfinement en trois étapes. Réouverture des magasins dès samedi matin, liberté de circuler à partir du 15 décembre. Les restaurants, eux, devront attendre le 20 janvier. Un calendrier qui dépend de l'évolution de la crise sanitaire, a bien insisté hier le chef de l'État. On en parle avec les invités de France Inter ce matin.
Oui,
à 7h50.
Oui. Réaction à l'allocution d'Emmanuel Macron, mais aussi projet de loi de sécurité globale et images de migrants délogés par la police. Que pense la droite? Que dit la droite? Réponse avec l'un de ses hommes forts, Bruno Retailleau, le patron des Républicains, sera avec moi à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire. Appelez-nous, vous aurez la parole largement. Le standard vous attend dès maintenant, 01 45 24 7000. Les autres titres, Agnès.
Les campagnes de dépistage massif ont commencé dans une trentaine de lycées d'Île-de-France. Une nuit aux côtés des migrants, évacués donc lundi soir de la place de la République à Paris. Et puis un PSG laborieux mais victorieux hier soir en Ligue des Champions.
France Inter.
Un déconfinement en trois étapes, donc 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier. Nous allons les détailler dans un instant. Mais chaque assouplissement devra être validé par les chiffres. Alors que la barre des 50 000 décès a été franchie hier, l'objectif du gouvernement reste un nombre de nouvelles contaminations inférieur à 5 000 par jour et moins de 3 000 malades dans les services de réanimation. Lors de son intervention hier soir, Simon Le Baron, le chef de l'État, a donc manié la carotte et le bâton.
Le président a deux obsessions, deux grandes craintes, expliquent ses proches. La troisième vague et l'explosion sociale. Alors oui, nous voyons la lumière au bout du tunnel.
C'est tous ensemble que nous avons obtenu ces résultats. C'est tous ensemble que nous avons sauvé des vies.
Mais il est encore trop tôt pour crier victoire.
Je m'adresse à vous ce soir pour vous dire qu'il nous faut poursuivre nos efforts.
Oui, nous pourrons passer Noël en famille si l'objectif des 5000 contaminations par jour est atteint.
Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance.
Et cela continue. Oui, les restaurants pourraient rouvrir le 20 janvier, mais nous pourrions aussi revenir en arrière si la situation se dégrade. Emmanuel Macron veut donner de l'espoir à des Français éprouvés et déprimés, mais il veut aussi les garder concentrés, selon le mot de l'Élysée.
J'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir. Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre rôle.
Le président sur un fil, entre optimisme et prudence, liberté et contrainte. Et d'ailleurs, oui, il veut sanctionner les malades qui refuseraient de s'isoler et demande au Parlement d'étudier des mesures contraignantes, mais il n'obligera pas les Français à se faire vacciner.
Première étape, donc, dès samedi matin, avec la réouverture jusqu'à 21h et selon un protocole sanitaire strict, 8 mètres carrés par personne, des magasins, librairies, fleuristes, jouets, habillements. À Paris, les commerçants pourront installer des stands sur les trottoirs et les places de stationnement. La reprise des activités sportives en plein air pour les enfants, les messes avec une jauge à 30 personnes et la liberté de circuler avec attestation durant 3 heures dans un rayon de 20 km. Une première bouffée d'air pour ces familles nantaises rencontrées par Béatrice Duguay.
Le champ des possibles est un peu plus ouvert, sourit Bruna, formatrice, chef de projet digital et maman de deux petits-enfants.
20 km, c'est un peu trop court pour aller sur la côte. Donc non, on ne pourra pas encore aller à la mer cet hiver. Mais oui, nécessairement, emmener mes enfants dans un parc, aller ramasser des marrons, des feuilles mortes, que j'ai peut-être pas dans le centre-ville de Nantes, oui, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire.
Car même si le travail et l'école ont permis d'être moins cloîtrés qu'au printemps, les projets étaient restreints quand même. De l'autre côté de la rue Jean-Jacques Rousseau, encore pavoisée des guirlandes du premier confinement, vivent Cécile, fonctionnaire, et Cyprien, infirmier psy, deux jeunes enfants également.
Vous voyez, même le soir encore aujourd'hui, avec nos voisins d'en face, très souvent on se demande mutuellement est-ce qu'on peut pas se faire un petit coucou à la fenêtre parce que les enfants ont envie de se faire un coucou, se dire bagné.
Les deux familles ont, comme avec pas mal d'autres voisins, noué des amitiés fortes lors du premier confinement. Fin du deuxième, envie de voir les proches et de retrouver du lien social pour Cyprien et Cécile.
20 km, 3 heures, si on peut, ça serait pouvoir retourner en famille. Ils n'étaient pas dans le kilomètre, donc on ne s'est pas vu depuis qu'on est confinés.
En termes de vie sociale, ça soulage un peu quand même, parce que c'est un peu dur. dur de continuer à vivre que professionnellement et de plus avoir ni de vie culturelle ni de vie sociale, c'est compliqué.
Réouverture des bars et restaurants attendue avec impatience. Aucune des deux familles n'ose en revanche tirer trop de plans sur la comète pour les fêtes de fin d'année.
Les fêtes de fin d'année justement, étape 2. À partir du 15 décembre, on peut employer le terme de déconfinement. Plus de limitations géographiques, fini les attestations, on pourra passer Noël en famille. Mais couvre-feu entre 21h et 7h, sauf les 24 et 31 décembre. Pas de rassemblement dans les rues le 31, pas de fête dans les salles municipales et un appel à la raison pour limiter le nombre d'invités. Réouverture également le 15 décembre des salles de cinéma, théâtre et musées. Là encore avec un protocole sanitaire strict, mais possibilité d'horodatage. Explication dans le journal de 7h30. Et puis, pas de ski pour cette fin d'année. Alors que l'on attendait une réponse dans une dizaine de jours, le chef de l'État a tranché dès hier soir, les stations ne rouvriront qu'en janvier. Reportage dans le journal de 8h. Et lorsque le 20 janvier, un bilan pourra être tiré de ces fêtes de fin d'année, la dernière étape de ce calendrier pourra avoir lieu avec la rouverture des restaurants. Enfin, a réagi hier la profession, toujours partagée entre soulagement et inquiétude. Fabien Cazot.
Avoir une date, cela permet de se projeter, c'est déjà ça, se rassurent les professionnels de la restauration, qui même si ce n'est pas une surprise pour eux, s'inquiètent de rater la saison des fêtes. Cela sera sans doute un coup fatal pour beaucoup, craint Didier Chenet du Groupement National des Indépendants, et ce malgré les aides promises par l'État qui ne répondent selon lui qu'en partie aux besoins du secteur.
Le président de la République a répondu à notre demande d'indemnisation pour la restauration. Nous, ce que nous disons, c'est que les autres professionnels, les hôteliers, qui sont les victimes collatérales de la fermeture des restaurants, il faut que les hôteliers puissent bénéficier des aides. Il faut savoir que bon nombre d'hôtels sont des hôtels-restaurants et on leur interdit l'activité de restauration. C'est complètement absurde.
Les restaurants pourront bénéficier au même titre que les salles de sport, les bars et les discothèques d'une aide équivalente à 20% de leur chiffre d'affaires annuel de 2019, quand celle-ci est plus avantageuse que les 10 000 euros proposés dans le cadre du fonds de solidarité. Une réponse exceptionnelle au sacrifice, selon les mots du chef de l'État, consenti par ces professions frappées par les fermetures administratives.
Et cette aide exceptionnelle sera plafonnée à 100 000 euros, a précisé hier soir Bercy. 200 000 entreprises pourraient être concernées. Le 20 janvier devrait également marqué le retour des lycéens en cours tous les jours et non plus la moitié du temps. Les étudiants, eux, devront attendre encore 15 jours supplémentaires pour retrouver les amphis. Et en attendant, des opérations de tests à grande échelle sont organisées dans une trentaine de lycées d'Île-de-France. Première opération hier au lycée Agora de Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Sonia Princé a suivi tout le processus. Reportage.
Louane et Hélène avouent que ce sont leurs parents qui les ont poussés à passer ces tests.
J'ai des personnes à risque à la maison, alors j'ai quand même envie de savoir. Ma mère qui fait de l'attention, donc forcément ça m'emballe pas du tout non plus, mais je me force.
Moi, personnellement, je vais le faire, mais j'ai très très peur. Avec tous les avis que j'ai vus sur internet, que le test faisait mal, que c'était horrible, j'ai des a priori.
Allez Hélène, c'est parti!
On va prendre quelques informations tout concernant.
Les formalités remplies, la lycéenne rejoint la salle de prélèvement.
On a notre première personne à prélever.
Ah, je suis la première en plus. Super!
Est-ce que tu peux pencher un peu ta tête en arrière? Hop, voilà, c'est bon. Tu vois, c'était rapide.
Ça va, t'as pas eu trop mal?
Non, ça va. Ça m'a fait un peu tousser et pleurer, mais ça va aller.
Dans ce lycée, la moitié des élèves se sont fait dépister et un tiers des personnels, comme Timothée, professeur de technologie.
J'ai été volontaire, alors je pense que ça fait partie un peu de mon rôle d'enseignant aussi, de montrer l'exemple par rapport aux élèves qu'on incite à venir se faire tester.
L'objectif est avant tout statistique, selon Nicolas Péju, directeur général adjoint de l'ARS d'Île-de-France.
Nous n'avions pas, jusqu'à ce jour, une photographie précise de la manière dont les virus circulent dans les établissements scolaires. C'est le but de cette opération.
30 minutes plus tard, Hélène obtient son résultat.
C'est pas trop une surprise parce que moi je fais beaucoup attention à moi.
Test négatif comme pour la plupart des élèves qui ne doivent surtout pas relâcher les gestes barrières.
Reportage de Sonia Princé à retrouver sur franceinter.fr où vous trouverez également tous les détails du calendrier annoncé hier soir par Emmanuel Macron.
Il est 7h09, une journée de polémique politique, Agnès, et une nouvelle nuit dehors pour les migrants.
Deux enquêtes ouvertes par le parquet de Paris. La police des polices est saisie après les violences lundi soir place de la République à l'encontre de plusieurs centaines de migrants qui tentaient de s'installer. La maire de Paris propose deux lieux d'hébergement dans les 15e et 17e arrondissements. En attendant, Rémi Brincato a suivi les réfugiés afghans dans leur nouvelle nuit d'errance. Reportage.
Près de la porte d'Aubervilliers, ils sont quelques dizaines sur un trottoir à tuer le temps. Place de la République, j'étais dans une tente, raconte cet Afghan qui se dit blessé. Les policiers ont mis leurs chaussures sur ma tête, ils m'ont frappé au genou. Je n'invente pas, insiste-t-il, nous sommes des demandeurs d'asile, nous n'avons rien fait de mal. Un peu plus loin, Morsen, Afghan lui aussi, n'a plus que quelques vêtements et un sac de couchage.
La police a pris nos tentes, ils nous ont fait peur. Je suis parti en courant pour qu'il ne me frappe pas.
Le jeune demandeur d'asile de 23 ans montre cette course-poursuite en vidéo sur son téléphone. Repoussé hors de Paris en banlieue, il dit avoir été empêché de dormir par d'autres policiers. C'est son quotidien depuis l'évacuation du campement de Saint-Denis.
Je dors dans la rue, mais la police vient nous chasser. Quand je leur demande où aller, ils me répondent qu'ils ne savent pas. Ils font ça toutes les nuits. Quand je suis arrivé en Europe, je pensais que la police était gentille. Mais maintenant, je pense que c'est la même qu'en Afghanistan ou en Iran. Ils font peur aux gens et ils frappent les gens comme moi.
Morsen, qui se dit épuisé, ne rêve même plus d'un toit sur la tête, mais de pouvoir dormir quelques heures sans être chassé.
Et les députés ont adopté hier la proposition de loi sur la sécurité globale. 30 marcheurs se sont abstenus, 10 ont voté contre. Le texte doit à présent être examiné au Sénat, qui a fait part de son intention de le modifier. La presse rend hommage ce matin à Christophe Dominici, ancien international du 15 de France, ailier virevoltant à l'âme tourmentée, mort hier à 48 ans en chutant d'un bâtiment désaffecté dans le parc de Saint-Cloud. L'essai contre les All Blacks en 1999 avait changé sa vie, mais l'après-rugby de celui qui avait fait les beaux jours du Stade français était difficile à construire. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Enfin, une petite victoire et une grosse colère hier soir au Parc des Princes. Le PSG a battu Leipzig 1-0, conservant ainsi ses chances d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais une question sur le niveau de jeu des Parisiens a provoqué l'ire de l'entraîneur Cédric Guilloux.
Dominé techniquement, absent collectivement, sans aucune maîtrise, les Parisiens qui avaient rapidement ouvert le score grâce à un pénalty de Neymar ont ensuite sombré mais sans craquer. Alors les critiques sur le niveau de jeu de son équipe, Thomas Tuchel ne voulait pas en entendre parler à l'issue du match.
C'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des couilles de faire ça. Je suis fatigué de répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué. Si vous avez le courage, vous pouvez prendre cette question à la vestiaire. Vous trouvez des gars qui sont finis. Donnez tous.
Moins irrité que son entraîneur, le capitaine parisien hier soir, Marquinhos.
Je pense qu'on n'a pas été dans notre meilleur niveau pour faire ce qu'il fallait faire pour un match exceptionnel. Mais le plus important aujourd'hui, c'était la victoire. Et peut-être on n'a pas brillé, mais on a réussi à tenir ces 3 points à la maison qui sont très importants pour la suite.
Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain revient à hauteur des Allemands au classement et garde donc son destin en main dans cette Ligue des Champions. Presque un miracle, vu la prestation des Parisiens hier soir.
Et prochain match pour le PSG, mercredi prochain face à Manchester United. Et puis Rennes, définitivement hors jeu après une nouvelle défaite hier soir face à Chelsea, 2-1, dont un but anglais signé Olivier Giroud.
Merci Agnès Soubiran.